Pour raconter son monde, l'homme fit de son imagination un univers. C'est au sein de cette tentaculaire fresque d'œuvres qui tapisse notre imaginaire que nous allons plonger pour tenter d'en dresser les contours. Bienvenue dans la cartographie de l'imaginaire.
Bonjour tout le monde. Avant le début de cette chronique, je dois faire un rapide disclaimer. La chronique qui va suivre n'est que la première moitié d'une interview en deux parties. Si vous souhaitez écouter la deuxième moitié, vous pouvez rester branché sur Radio Boomerang 89.7 tous les vendredis de 18h30 à 19h, ou vous pouvez retrouver les podcasts de cette émission sur www.radioboomerang.com. Sur ce, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de la cartographie de l'imaginaire. Aujourd'hui, un nouvel épisode à mi-chemin entre podcast et interview. Pour cette session, je reçois un invité de qualité. Je te laisse dire bonjour aux auditeurs.
Félix, du coup, enchanté. Salut à tous et à toutes.
Du coup, Félix, je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on discute un peu, parce que t'es quelqu'un de très cool, qui trempe dans plein de projets très cool.
Merci.
Des projets artistiques, des projets créatifs. Et c'est un peu de tout ça dont je voulais discuter un peu avec toi. Comment est-ce qu'on crée? Qu'est-ce qu'on crée? Ce genre de grandes questions existentielles auxquelles...
C'est vrai, quand tu m'as parlé un peu de ton projet, j'étais emballé directement, parce que moi, l'imaginaire, c'est vraiment... Je pense que s'il y a un sujet qui détermine un peu ce que je suis... et comment je veux travailler et tout au quotidien, c'est ça quoi. C'est vraiment c'est un des trucs qui me motive le plus au quotidien quoi. C'est essayer de créer des univers, de pouvoir les faire dialoguer, de voir un peu les cabanes à images qu'on a tous en commun et de travailler là-dessus. Donc ouais, quand tu m'as parlé de ça, bien sûr, je suis dedans quoi.
Bah, tu vois, déjà tout de suite, j'ai envie de te poser une question. Tu viens de dire un terme, cabane à images.
Ouais.
Ça veut dire quoi?
En fait, ça me fait penser à de la sociologie, tout ça. Je crois que c'est Jung, un moment, qui a théorisé tout ça. Et moi, j'ai fait un master de design graphique à Tournai, en Belgique. Et dans ce master-là, on a eu quand même beaucoup de cours de philosophie et de socio pour parler un peu de l'imaginaire, en fait. Et de l'imaginaire collectif, de l'inconscient collectif aussi. Jung a beaucoup travaillé là-dessus. Et je me rappelle qu'en cours, dès qu'on a commencé à parler de ça, ça m'a parlé à fond, sur le fait que culturellement et socialement, on développe tous notre propre cabane à images. Par exemple, tu sais, entre le mot qui existe et l'idée qu'on s'en fait, on fait appel à l'imaginaire déjà d'entrée de jeu. C'est Platon, que j'ai vu en cours aussi là, qui parle de la chaise, de l'idée de la chaise. Et donc dès le début en philosophie, il y a cette idée d'imaginaire où si tu t'es pas fait l'idée de la chaise avant et que tu matérialises pas une chaise imaginaire dans ton esprit, si je te dis le mot chaise, ça va pas résonner en toi et tu vas pas pouvoir matérialiser ce que c'est. Donc t'as besoin de la chaise imaginaire pour pouvoir appréhender celle qui existe pour de vrai quoi. Et ce concept de cabane à images, cabane à idées qu'on a tous quoi, qui se construit culturellement, ça m'a parlé à fond. Dès que je l'ai entendu, ça a résonné pas mal.
Moi, ce que tu viens de dire, ça me fait grave penser aux fameuses questions, tu sais, qu'on se pose tous parfois dans les soirées, genre invente une nouvelle couleur. Ou si un aveugle devait décrire un cube, qu'est-ce que ça serait pour lui un cube?
Ouais, voilà, mais le rapport en fait direct entre... Pour moi, c'est ça qui est le plus fou dans l'imaginaire, c'est que ça peut paraître quelque chose de très lointain, un peu sans fondement, où on va se détacher du réel justement, parce que le réel, ça y est, on est dedans, on le connaît, on le subit tous les jours, donc on va se diriger un peu vers l'imaginaire pour oublier tout ça. Et en vérité, je trouve que plus l'imaginaire se rapproche du réel, plus il dialogue avec, plus il se passe des choses et plus il est intéressant, tu vois. Ça peut être en termes d'apprentissage, ça peut être, tu vois, si quelqu'un te raconte une histoire que t'as pas vécue, mais que ça résonne avec ce que t'as vécu quand même d'une certaine manière, je pense à, je sais pas, des morceaux de chansons françaises ou de rap qui vont déclencher justement cette cabane à images là très très fort, tu vois. T'as comme des visions, moi ça me fait ça, tu vois, quand j'écoute un morceau de rap que j'aime ou de chansons françaises, ça va déclencher une suite d'images comme ça, et ouais, c'est...
C'est trop cool.
Voilà.
Tu te souviens d'un des premiers trucs qui a créé ta cabane à images?
Je pense que franchement, vu que la musique, j'adore ça et que j'ai un peu démarré en faisant de la musique, c'est un peu le premier truc créatif que j'ai fait. Tu vois, certains morceaux que je réécoute aujourd'hui et qui me font penser à mes premiers souvenirs d'enfance avec mes parents, tout ça, il y a quelque chose d'un peu fou là-dedans, parce que les souvenirs, c'est du réel, c'est du concret, sauf que maintenant, quand j'écoute les morceaux, vu que j'ai re-rêvé ces moments-là avec ma famille ou quoi depuis, je sais pas exactement ce qui se passe, mais le souvenir devient un peu imaginaire, tu vois. Il devient un peu romanesque, quoi. Quand j'écoute certains morceaux, il y a... Elle est où la différence, en fait, entre du coup ce que t'as rêvé, ce que t'as vécu, puis imaginé ensuite, ou genre, tu sais, quand tu te racontes, toi, l'histoire de ta vie, tu peux aussi romancer un peu ce que t'as vécu, les moments familiaux, c'est important, tu vois, donc... Il y a tout un truc comme ça où c'est un peu difficile de faire la part des choses, mais justement, c'est là que je trouve ça beau, quoi. L'imaginaire qui est vraiment relié à, ouais, à ce que t'as vécu,
ouais, c'est ça.
À tes souvenirs, tout ça.
Mais du coup, ouais, toi, ta cabane à images, elle se construit vachement autour du son.
Ouais. En fait, c'est intéressant, comme on en parlait tout à l'heure, vite fait, mais vu que je travaille dans l'image et aussi dans le son, je vois des parallèles entre ces choses-là, assez évidents. Qui se construisent et qui se cristallisent beaucoup autour de l'imaginaire, en fait. Autour de la réception de ce que ça va créer, en fait, comme cabane à images chez nous, quoi. Et ouais, franchement, entre un tableau qui va nous faire imaginer des choses en dehors des limites du cadre et un morceau qui présente, je sais pas, un personnage dont on raconte une histoire à l'instant T, tu peux imaginer tout le reste de sa vie et tout, ça fait appel, bien sûr, à genre son imaginaire personnel et en fonction de cet imaginaire-là, donc de la vie que t'as eue, des souvenirs que t'as, ça va te parler plus ou moins, mais je pense que le fil un peu sensible de tout ça, c'est vraiment sa propre imagination, sa propre sensibilité, jusqu'où ça peut nous amener, quoi. Et ouais, par rapport à la musique, quand même, c'est quelque chose qui est très fort. Je parle beaucoup de textes, parce que je pense que j'ai une sensibilité plus à même de réagir à des textes qui sont écrits, alors qu'il y a des gens, tu leur mets, je sais pas, de la musique d'ambiance ou du jazz ou du blues sans parole pendant une demi-heure et c'est là qu'ils vont se créer le plus d'histoires eux-mêmes, qu'ils vont avoir le plus d'images, qu'ils vont défiler, ils vont se laisser porter et tout, ils vont laisser leur imaginaire un peu dériver.
C'est, franchement, là, tu m'offres la transition parfaite sur ouais. un point sur lequel je voulais rebondir. Tu parles de musique, de jazz et de cabane à images. Et je t'avais posé la question, est-ce que tu te souviens de la première œuvre qui t'avait un peu marqué?
Ouais.
Moi, la réponse à cette question, je sais pas si tu l'as vu, c'est le film Les Indestructibles, le premier.
Oh, il était incroyable.
Il était extraordinaire.
Il était incroyable.
Honnêtement, c'est le seul film de ma vie que j'ai jamais vu deux fois au cinéma. C'est le seul film pour lequel je suis allé deux fois au cinéma.
Bah, mérité, franchement.
Franchement, mérité de ouf.
Et le 2 aussi était pas.
Le 2, je l'ai trouvé moins bon que le premier, mais il était très très bon quand même.
Attention. Il est moins bon.
C'est pas parce qu'il est moins bon que le premier qu'il est nul en général.
Et est-ce qu'on le trouve, parce que moi je rejoins ton avis, mais est-ce qu'on le trouve moins bon parce que il est factuellement moins bon? Ou est-ce que quand t'es enfant et que tu te prends ce genre de gifle là, quand tu regardes, moi c'est Monstres et Compagnie par exemple, voilà, c'était un peu, tu vois, le. The film, quoi, pour enfant qui m'a marqué. Et quand je le regarde aujourd'hui, je peux pas être objectif, c'est impossible. Parce que quand j'étais petit, ça m'a justement, niveau imaginaire, ça m'a trop retourné, tu vois, genre, le fait qu'on t'invente un... Que toi, tes angoisses d'enfant, je parle toujours de Monstres et Compagnie, hein, mais que les cauchemars et les rêves que tu fais, en fait, c'est des monstres qui sont payés pour ça, pour venir te voir la nuit, ça crée toute une dimension où, justement, le rapport réel dont on parlait tout à l'heure, tu vois, quand t'es petit, tu fais des cauchemars, des terreurs nocturnes et tout. Moi, j'étais beaucoup sujet à ça, par exemple. Et je me rappelle que, grâce à l'imaginaire, du coup, ce film-là, il m'a un peu permis de faire la paix avec ça. Je me disais, ok, je vais passer une mauvaise nuit et tout, je vais faire des cauchemars, mais c'est peut-être juste des petits monstres qui font leur boulot, quoi. Et cet imaginaire-là, il peut te rassurer. Il peut aussi te faire bien flipper quand t'es petit, parce que l'imagination va très vite, mais ça peut aussi te rassurer. Et du coup, ça m'a marqué pour longtemps. Et je pourrais pas... Si je le découvrais aujourd'hui, ce film, ce serait complètement différent. Mais vu que j'ai imaginé très fort en étant enfant, c'est à tout jamais différent. Et Les Indestructibles, franchement, oui, c'est pareil.
Pour rester sur la comparaison entre les deux, je me souviens qu'un des trucs qui m'avait le plus marqué quand j'étais gamin en voyant le 1, en fait, c'était même pas forcément tant le film, parce qu'il est extraordinaire, le film. Mais c'était vraiment au tout début. Je sais pas si tu te souviens un peu du film.
Oui, je me rappelle très bien.
Au tout début, il y a vraiment dans les 5 premières minutes du film, il y a un mec qui se jette d'un immeuble pour se suicider.
Ouais.
Et Monsieur Indestructible le rattrape et le fait, en le rattrapant, tu sais, il le fait traverser un immeuble, etc., etc.
Oui, oui. Et les gens même lui reprochent.
Et le mec
de
porte plainte contre, oui, Monsieur Indestructible,
oui,
parce qu'il voulait pas être sauvé.
Ouais, ouais.
Et moi, je me souviens, quand j'étais gamin, ça m'avait explosé la tête. tête. J'arrivais pas à comprendre pourquoi il en voulait à Monsieur Indestructible, et en même temps, en grandissant, j'étais en mode, bah ouais, mais c'est vrai, mais s'il voulait pas être sauvé.
Mais c'est des questions complexes que ça soulève quand t'es petit, c'est un peu dur. Et... c'est dur à gérer, mais ouais, c'est l'imaginaire pour appréhender le réel, c'est quelque chose que c'est grave important, mais surtout pour les enfants, quoi.
C'est ça. Et puis dans le deuxième, il y a une réflexion similaire. Cela dit, dans le premier, elle était relativement anecdotique, elle faisait partie d'un ensemble. Dans le deuxième, c'était le thème du film, c'est est-ce qu'on a tant besoin que ça des super-héros ?
Ouais.
Tu vois, et ça, c'était grave intéressant. Il y avait toute une scène entre Elastigirl et la grande méchante du film où ils discutaient de ça, tu vois. Les super-héros n'empêchent pas les crimes. Ils empêchent pas les crimes, ils arrêtent les crimes quand ils arrivent, mais ils n'empêchent pas les crimes d'exister.
Ouais, c'est ça.
Et c'était toute cette réflexion autour de ça qui était grave intéressante aussi.
Et ça parle, je pense que ça parle aussi directement d'imaginaire en vrai. J'ai l'impression que dans Les Indestructibles, les héros, ils cristallisent un peu un truc de, tu sais, l'ancien monde, aussi le monde pas ultra, industrialisé, capitalisme. Parce qu'il y a ce truc assez fort, je trouve, dans Les Indestructibles, notamment dans le premier, avec, tu sais, la vie de bureau. Très chiante, avec notamment, je sais plus comment s'appelle ce personnage, mais qui fait genre 1m10.
Le boss là.
Ouais, le boss ouais. Imbuvable et tout. Donc il y a un peu une critique de ce système là. Et les héros sont un peu genre, ouais, cet ancien monde où tu pouvais encore rêver, avoir des choses un peu enfantines, tu vois, des solutions de problèmes un peu simples, genre le héros qui vient tout sauver, le côté un peu manichéen quoi. Et je pense que la question que soulève le 2, c'est aussi est-ce qu'on a encore besoin un peu du rêve, un peu de l'imaginaire, ou est-ce qu'on peut régler nos problèmes tout seul, quoi, entre guillemets, avec, je sais pas moi, les institutions en place, la police, l'État.
Mais le 2, pour le coup, je trouve qu'il faisait vachement référence à la police notamment, tu vois. C'était pour moi, ça a été le parallèle évident. C'est est-ce que le fait qu'il y ait une force extérieure qui, entre guillemets, soit chargée de régler tous nos problèmes, est-ce que ça nous déresponsabilise ? Est-ce qu'on ne devrait pas reprendre nous-mêmes la responsabilité de régler les soucis, etc., etc.
Et puis, est-ce qu'on ne peut pas remettre un peu d'humain, un peu de rêve là-dedans, quoi, aussi ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir un tableau un peu plus global ? Je trouve que ça a invité à ça. En tout, faut peser aussi, parce que bon, c'est que ça reste de la super industrie.
Il y a des nuances. Il y a des nuances,
mais ouais, carrément. Je pense qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui est vraiment pas mal dans ce film, et dans beaucoup de films d'ailleurs. Surtout de notre génération. Je veux pas faire le vieux con parce que j'en suis pas un, tu sais, on a 25 ans et tout. Mais moi, je suis très attaché au contenu qu'on donne pour les enfants, tu vois, au film. Au livre illustré, parce que j'ai aussi commencé par là assez vite et tout, dans mes études d'élu, c'est des questions qu'on est amené à se poser. Comment on peut apprendre par l'imaginaire à des enfants un peu les dilemmes de la vie, comment devenir adulte, quoi, comment appréhender par exemple des problèmes sociaux un peu plus complexes et tout. J'ai l'impression que dans les films pour enfants que je vois aujourd'hui, il y a moins ça. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, il y a moins... c'est moins deep des fois au niveau des questions qu'on se pose, etc. C'est pas tout le temps vrai, parce que des fois il y a des films qui sortent qui sont, je pense à Vice Versa par exemple, ou à...
T'as vu Soul ?
Ouais, voilà, ou Momo je crois, enfin voilà, il y a des films qui des fois qui font
Soul,
très bien le
moi,
job.
C'est clairement pas un film pour enfants. Hein.
Oui, c'est... en fait bah, c'en est un, mais ça, ouais. Les problématiques sont tellement complexes que...
Pour moi, un enfant, il va trouver le film cool parce qu'il y a des... Il est magnifique le film.
Ouais.
Mais le cœur du film, c'est même pas sous-jacent ou un sous-texte. C'est vraiment le propos du film qui est abordé. C'est le truc.
Ah ouais,
c'est le sens de la vie.
Ouais, complètement.
À quoi ça sert d'être en vie, tu vois, quand t'es gamin.
C'est vrai.
C'est compliqué à traiter.
Il y en a quand même des très bons films. Et je pense aussi au Chapoté 2 que je suis allé voir au cinéma il y a pas si longtemps.
Il était trop bien.
Et vis-à-vis du thème de la mort, par exemple, qui est pas évident à aborder avec les enfants, c'est normal, tu vois. On a tous un peu notre période de déni à cet âge-là où on a un peu du mal à gérer le concept, quoi. Et puis, souvent, bon, on l'espère, j'espère pour tout le monde, mais normalement à cet âge-là, t'as pas vécu encore aussi, t'as pas fait l'expérience directe de la mort, enfin, ça arrive pas souvent, quoi. Et je pense que du coup, le contenu un peu imaginaire, les livres, les films, les musiques, jouent un rôle un peu déterminant là-dedans, quoi, pour. Apprendre aux enfants, du coup aux futurs adultes en construction, quoi, à appréhender des sujets très complexes, la mort, la maladie, mais aussi les relations familiales, des choses qui peuvent être très, très deep, très dures à gérer. Et c'est vrai que voilà, j'ai l'impression qu'on accordait plus d'importance à ça avant. Quand je dis avant, c'est il y a encore 10-20 ans, etc. Mais c'est pas tout le temps vrai. Il y a quand même des films qui font le job et tout, mais ouais, moi c'est en tout cas c'est ce qui m'intéresse le plus dans l'imaginaire en fait que vont développer ces trucs là les films, les BD et tout, c'est quand ça parle aux enfants, Je sais pas pourquoi, je trouve ça encore plus important que quand ça part aux adultes, parce que c'est vraiment un âge où tout se joue. Et l'imaginaire pour venir appréhender le réel, venir, tu sais, se construire, se créer, je trouve ça super intéressant. On pense, je sais pas moi, les... après c'est à double tranchant, tu vois, mais je pense aux fables de La Fontaine et compagnie, les contes pour enfants, Grimm, Perrault. Il y a toujours un truc de tout vient à point à qui c'est attendre, faut pas parler aux inconnus. Et c'est du conditionnement social, quoi. Et je pense que les adultes, les parents sont les premiers à vie à ce que les enfants se disent « Ah oui, ok, j'ai compris, le petit chaperon rouge, c'est bon, je vais pas aller parler à n'importe qui dans la rue, je vais pas faire confiance à n'importe qui et tout. » Mais en même temps, et je parle un peu de ça du coup dans mon mémoire, peut-être on en reparlera tout à l'heure, le mémoire que j'ai écrit l'année dernière, mais ça parlait aussi un peu des dangers de ce truc-là, parce que l'imaginaire pour apprendre des choses sociales aux enfants et pour les insérer un peu, ça peut être bien, comme ça peut être mauvais en fait. Si par exemple l'imaginaire tu le déploies, je sais pas, j'ai vu une pub de jouets il y a pas longtemps, tu sais, très bleu pour les garçons, rose pour les enfants, très très marqué comme ça, donc ça existe encore, hein, beaucoup. Et c'est une forme d'imaginaire aussi, tu vois, le petit garçon qui deviendra un futur gars fort, courageux, il conduit des voitures, il va vite, et il a des muscles, et puis il pleure pas, parce que c'est pas bien de pleurer. Et puis t'as la petite fille qui va jouer à la poupée, petite maison à poupée rose, on va lui apprendre à parler de ses émotions, mais surtout à écouter les émotions des autres, et surtout celles des gars, enfin bref. Et ça aussi, c'est des cabanes à images, et ça aussi, c'est des imaginaires, et c'est des choses qu'on fait rentrer dans la tête des enfants par des biais imaginatifs et tout, et par l'imaginaire, et par l'histoire racontée derrière le produit, ou derrière... Donc... Je trouve qu'il y a tout un monde à explorer, à découvrir avec l'imagination, au service un peu du coup de l'apprentissage des enfants, mais il faut voir ça comme une arme aussi, je trouve que c'est un soft power qui est fou, quoi. Et ça peut être bien géré, avec des intentions très louables, comme ça peut devenir très dangereux aussi des fois, et on peut construire socialement des enfants complètement avec ce genre de contenu, quoi. Ouais, moi c'est ça qui... ça m'intéresse beaucoup quand même dans le travail que je fais et tout... Dans le jeu société que j'ai essayé de faire aussi, je me suis beaucoup posé ce genre de questions. Ouais.
Et c'est déjà la fin de cette première partie. Ne vous en faites pas, la suite arrivera rapidement. En attendant, vous êtes toujours sur Radio Boomerang 89.7 et je vous laisse avec Old and Wise du groupe The Alan Parsons Project. As far as my eyes can see. Shadows approaching me. Like autumn winds will blow right through me. And some
when they ask.